Cluster Conversations, a podcast by Africa Multiple.
Okay, welcome to Cluster Conversations. I'm Cassandra Mark-Thiessen, leader of the junior research group African Knowledges and the History Publication. And today I am honored to be sitting here with Jean-Luc Raharimanana, born in Madagascar and having later migrated to France, where he currently lives in Paris. Raharimanana is author and artist, dealing with life in and between these spaces, childhood, decolonization, political repression, migration. Those are all themes running through his work. And in doing so, he ruminates about human experiences, issues of departure from loved ones, a home, inequality, and belonging. And what I really appreciate about his work is the way that it holds the pain and joy of all of these experiences all at once. So I think this is a sense of awareness that many people, or let's say more people around the world, are better tuned into these days. Let me also introduce Yelena Mijailovic, who's a master's student here at the University of Bayreuth in Francophone literature. So to begin, someone once called me lucky because a war broke out in Liberia, my first home in 1989 when I was 9 years old, and my family had to flee to Switzerland where I later finished school, etc., and where my parents currently reside to this day. Yet, based on that experience, I feel like I carry something around with me, something that few people are actually interested in, and that I've gotten used to not mentioning. And I felt that was something, or that something was kind of tapped into with your work, and I really enjoyed getting to know your work recently. And I think that maybe it's this kind of tension, this wanting to deal with this something that perhaps made me become a historian, because I think that under certain circumstances, we are called on as individuals to bear witness to our own stories, to the stories of places, to what humanity is capable of. And so I first want to ask you about your negotiation with the past and the present. You became a chronicler of the past and present using many different genres of literature, also different art forms. And with your writing itself, I think I would describe it as hard to pin down, as containing incomplete sentences, as moving like music, as melding time in very interesting ways. So I want to ask you, what exactly is your relationship to genre? Why this choice for multiplicity in your work? What do you mean to achieve by moving in the way that you move? And maybe to begin with something more simple, when did you discover the power of words?
Je voulais donc commencer par vous interroger sur votre négociation avec le passé dans le présent. Vous êtes devenu un chroniqueur du passé et du présent en utilisant de nombreuses formes de genres littéraires différents. Et vos écrits contiennent eux-mêmes, ils sont difficiles à cerner, ils redonnent des phrases incomplètes, se déplacent comme de la musique et se fondent dans le temps. Quel est votre rapport au genre? Pourquoi cette multiplicité des genres? Que voulez-vous dire en passant de l'un à l'autre plutôt qu'en choisissant un? Et avant tout, quand avez-vous découvert le pouvoir des mots et des mots sur le papier en particulier?
Bonjour à tout le monde. Je suis très content d'être là d'abord pour le podcast. Et c'est un moment important parce qu'on prend le temps de discuter. Et justement, dans mon rapport avec l'écriture, c'est aussi de prendre le temps. C'est de prendre quel est le juste ton et quel est le discours qui peut s'adapter à chaque situation. Et ça répond un peu à votre question sur les genres. Bien sûr, j'écris en français, on peut dire que mes livres peuvent être classés dans la littérature française ou francophone, mais avant tout, je viens de l'oralité. J'ai commencé à raconter des histoires quand j'étais enfant avec ma grand-mère. Ma grand-mère racontait des histoires et puis elle chantait aussi, elle disait des poèmes en malgache, tout ça. Et à partir de là, je me sentais assez libre d'être poète quand je veux, d'être conteur quand je veux ou de réfléchir quand je veux. Et je trouve que s'enfermer dans un genre, ce n'est pas exploiter toutes les ressources de l'humain, de l'expression. Et donc mon rapport avec les mots, comment, à partir de quel moment j'ai découvert le pouvoir de ces mots, c'est très tôt en fait, très tôt quand je racontais des histoires à mes amis, j'avais à peine 10 ans, quelque chose comme ça. Et je voyais qu'ils attendaient que je raconte l'histoire. Je voyais qu'ils étaient passionnés par ce que je racontais. Et je pouvais presque dire n'importe quoi. Et eux, ils étaient avec moi. Donc à partir de là, j'ai découvert que les mots ont un pouvoir. Mais il y avait aussi deux autres événements. Mon père, il projetait des films dans une ancienne église et les films étaient en français. Et mes amis ne maîtrisaient pas très bien le français, mais ils comprenaient les images. Mais à la fin du film, ils venaient me voir en disant « Jean-Luc, raconte-nous le film ». Et donc je les amenais quelque part et je racontais le film, mais je changeais l'histoire. Parce que je n'aimais pas toujours comment le film se déroule. Et donc je changeais l'histoire et je voyais qu'ils savaient que je changeais l'histoire, mais ils acceptaient ce que j'étais en train de raconter. Et à partir de là, je me suis dit, tiens, je peux peut-être écrire aussi mes propres histoires. Et j'ai commencé à y écrire un peu dans mes cahiers, dans mes carnets. Et ensuite, il y a eu des événements politiques à Madagascar. Il y a eu des violences des militaires. À côté de chez nous, il y avait l'université, il y avait les bruits des armes. J'ai vu des violences faites par les militaires. Et là, je ne savais pas comment raconter tout ça. Et j'étais face à quelque chose de complètement incompréhensible pour moi, pourquoi les gens se frappaient, pourquoi il y avait ces violences-là. Et l'écrire était quelque chose, pour moi, était très sale. J'aimais les choses, les belles choses, les choses magnifiques. Et écrire la violence, c'était au-dessus de mes forces d'enfant. Mais en même temps, je savais que les mots avaient ce pouvoir-là. Et donc, je me suis mis à écrire, mais en me cachant. Je ne montrais pas mes textes aux autres. Mais je savais qu'il y avait quelque chose, parce que ce sont des mots qui me troublaient énormément, alors que ce sont des mots que j'utilisais aussi tout le temps. Mais face à cette violence-là, c'était impossible à supporter pour un enfant, pour l'enfant que j'étais. Voilà. Voilà à peu près, et ça, j'ai des images très très claires en fait par rapport à tout ça.
I want to go back to the point of honoring your grandmother and the place of orality in your work, that central place of orality in your work. Would you say that it is that perspective that makes multiplicity necessary or possible? And then when did you decide to show your work? What were the circumstances that led to that transition?
Pourriez-vous nous dire donc quelle est la place que la moralité prend dans votre œuvre, et donc est-ce que c'est la... Ça dépend de la perspective, comment est-ce qu'on montre cette multiplicité en fait?
Je pars toujours de ma culture, malgache et africaine et asiatique, dans la mesure où Madagascar est un mélange de tout cela. Et donc maintenant, je développe ce travail-là en me disant je ne cherche pas mon identité, je connais mon identité, mais je déploie mon identité. Il y a une grosse différence parce que très très souvent, il y a ce débat-là sur le fait que vous écrivez en français, donc vous cherchez votre identité. Non, je ne cherche pas mon identité, je connais très bien mon identité parce que... mes parents, ma grand-mère m'ont transmis cette identité-là, donc je n'ai aucun problème par rapport à mon identité, mais par contre, je la déploie. C'est-à-dire que ce qu'on reçoit comme héritage culturel, on a le devoir de développer tout cela. Et on a cette joie aussi de transmettre. Parce que c'est une joie pour moi de transmettre la culture. Et à partir de là, je fais des recherches sur ce qui constitue la culture malgache. Et forcément, on va vers l'Asie, on va vers l'Afrique, on va vers toutes les autres cultures qui sont arrivées à Madagascar. Et donc, c'est d'une richesse extraordinaire. Et je n'ai pas besoin en fait de tellement intellectualiser les choses en me disant qu'est-ce que je mets en place pour mes livres, mais tout simplement je fais une plongée dans cette culture-là. Et cette plongée n'est pas simplement une découverte, mais c'est aussi une réinvention. Je rentre dedans et je réinvente aussi ce que je trouve là-dedans parce que quelque part, il y a l'envie aussi pour moi d'être un autre conteur. Parce que chaque conteur raconte à sa manière et réinvente le conte. Et ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est comment faire en sorte que l'oralité bascule dans l'écriture. Et ça, c'est un autre travail. Mais peut-être qu'on en parlera un peu plus tard. Mais pour revenir à ces moments de première création, évidemment, quand j'étais enfant, je pensais pas que j'étais écrivain. Pas du tout. J'étais juste quelqu'un qui écrivait, qui se cachait. Et j'ai commencé à montrer parce que ma mère, il fallait bien que j'achète les cahiers, les carnets. Et c'est ma mère qui achetait les carnets. Donc j'avais une certaine complicité avec elle. Je lui montrais quelques carnets, pas tout, mais je lui montrais quand même des choses. Et bien plus tard, quand j'étais au lycée, j'avais un ami très très proche qui est un très très grand lecteur. Il lisait tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la cour, pendant la récréation, au lieu de jouer, il lit. Et on a commencé à développer comme cela, entre nous deux, une conversation autour des livres que nous avons lus. Et à partir de là, j'ai commencé à lui montrer aussi... à lui montrer mes propres textes et les professeurs aussi. À un moment donné, il y a eu des professeurs qui étaient intéressés par ce que j'étais en train d'écrire et je montrais. Et puis au fur et à mesure quand même, au fur et à mesure des violences politiques, je me suis posé cette question-là, je sais écrire, qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais de l'enfant que j'étais qui avait vu ces violences-là et qui était traumatisé? Qu'est-ce que je fais de cet enfant-là? Et donc, à un moment, je me suis dit, je peux écrire, comme il y avait des chanteurs qui pouvaient chanter, moi je peux écrire, donc je peux montrer. Et j'ai commencé à montrer à l'université en première année.
So you describe yourself as a real product of your environment, physical, also social environment. I wanted to talk about your father, who, like myself, was a historian. And I was wondering what your feelings have been towards not his work personally, but towards the discipline in general, in terms of capturing these experiences, whether it's political repression, violence. Where do you place that kind of work in the larger work that needs to be done in dealing with that kind of trauma, that kind of human experience?
Quels sont les objectifs généraux de vos écrits? Et votre père était historien, donc quels sont vos sentiments à l'égard de cette discipline, de son potentiel et de ses limites? Et considérez-vous que le jeu des mots est un moyen de rendre l'histoire conventionnelle plus humaine?
Ce qui est important dans le fait que mon père était historien, c'est d'abord aussi un historien qui était conscient des enjeux néocoloniaux. C'est-à-dire qu'il est Madagascar est indépendant en 1960 et lui, il est étudiant à l'université dans ces années 60. Et la manière dont on transmet l'histoire malgache était quand même marquée par l'esprit colonial, sur le fait que la colonisation était un bienfait pour Madagascar et qu'on nous a donné l'indépendance. Et à l'époque, eux, ils parlaient très très peu aussi des luttes d'indépendance. Or, mon père, quand il était adolescent, il a vécu tout cela, il a vu que ce n'était pas ça, l'histoire qu'il était en train de vivre. Et pourquoi il était devenu historien, justement, c'est pour redonner à lui-même d'abord sa propre vision de l'histoire de Madagascar. Mais il avait des professeurs qui... Enfin, il avait un contexte quand même où la voix des historiens malgaches n'était pas encore en place. Et c'était pas encore... une approche qui était acceptée. Et donc, quand mon père recevait ses collègues, ou recevait d'autres personnes, des étudiants ou des témoins, beaucoup, 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 beaucoup de témoins venaient à la maison, ce n'était pas un historien classique. Il était déjà dans une remise en cause de cette vision de l'histoire sur Madagascar. Et moi, j'avais vraiment conscience de cela. Je voyais des disputes entre lui et d'autres historiens. Et évidemment, j'étais toujours du côté de mon père. Mais j'avais tout de suite conscience et confiance dans l'approche de mon père. Ce qui fait que très très vite aussi, quand j'ai commencé à écrire mon premier roman qui s'appelle Nour 1947, j'ai dû aussi interroger l'histoire de Madagascar. Qu'est-ce que ça représentait, 1947? Pourquoi on ne nous l'enseignait pas à l'école? Pourquoi on n'entendait que la version de l'armée française? Et est-ce qu'on peut faire une histoire avec le discours de l'armée? Et donc, à partir de là, j'ai réinvesti les enquêtes de mon père. En fait, il n'a jamais pu soutenir son doctorat parce que c'était trop polémique, sa manière de d'envisager l'histoire malgache. Et puis aussi, il s'est mis à faire de la politique, donc il a plus ou moins abandonné le professorat. Mais j'ai lu sa thèse qui est toujours inédite, malheureusement qui a brûlé en 2002. Et en 2002, il y a eu des événements politiques aussi où mon père a été torturé, la maison brûlée, donc tous les archives de mon père ont été brûlées aussi. Mais j'ai eu le temps de lire sa thèse. Et ce qui fait que je travaillais à la fois les témoignages et les archives. Et donc de me dire aussi, je ne suis pas historien, mon travail n'est pas de faire un travail d'historien, mais mon travail c'est de traverser la mémoire. Comment les témoins transmettent cette mémoire-là, ou comment cette mémoire ne sort pas de la famille, ne sort pas du pays. Pourquoi cette mémoire a du mal à s'exprimer? Et donc à partir de là, mon travail était de donner conscience aux gens qu'il y a une histoire, tout simplement. D'abord, première des choses, il y a une histoire. Parce que très, très, très souvent, il y a par exemple Nicolas Sarkozy à un moment qui disait que l'Afrique est en dehors de l'histoire ou quelque chose comme cela, et que c'était très, très étonnant d'entendre dire que votre continent n'a pas d'histoire. C'est absolument, absolument fou comme propos. Et donc, première chose que je devais dire, c'est chaque famille porte une histoire généalogique, une histoire clanique, une histoire aussi dans sa propre région, et puis après, cette région-là aussi se développe dans un pays. Et comment toutes ces particularités, en fait, tous ces individus vont de l'histoire personnelle à l'histoire régionale, à l'histoire nationale. Et comment ensuite, dans le sein de tout ce discours-là, comment dans tout ce discours-là, une nation se trouve aussi en face d'autres nations. Et ce qui était important, ce que j'ai beaucoup appris des historiens et de mon père aussi, c'est de me dire que l'histoire malgache n'a pas commencé avec la colonisation. On existait avant. Il y a cette grande question des Malgaches en disant, mais nous sommes sur une île, d'où venons-nous? C'est tout bêtement, on était là avant que les colons arrivent. Mais si on recule, on recule, on recule. Dans la maison même, entre frères et sœurs, il y a certains qui sont noirs, d'autres qui sont clairs de peau, d'autres ont des cheveux lisses, d'autres ont des cheveux crépus comme moi. Et comment ça se fait? La maman n'a pas trompé le papa. Et comment ça se fait qu'il y a, tiens, celui-là, on peut le mettre en Inde, celui-là, on peut le mettre en Afrique, celui-là, on peut le mettre en Arabie. Donc, l'histoire est présente dans les visages de la famille. Donc, j'avais vraiment conscience de cela. Et à partir de là, de me dire, qu'est-ce que je compte faire avec mon écriture? Non, je ne suis pas historien, mais je peux faire prendre conscience aux gens qu'on a des histoires individuelles, mais aussi une histoire nationale.
As part of my research group, we were very much interested in how, as you said, the personal history intersects with the regional history, intersects with the national history. And so I was wondering to what extent you consider your work, maybe even your father's work, as a kind of heritage work for Madagascar. I'm interested in your relationship to Madagascar. Would you say that you love Madagascar? Does Madagascar love you back? And is love even necessary as part of this heritage work of bringing out these new memories, bringing out these important histories?
Je trouve aussi que vous faites un important travail sur le patrimoine dans vos écrits. Donc, est-ce que vous pourriez donc nous dire dans quelle mesure vos ouvrages donc nous donnent un témoignage sur le patrimoine de Madagascar? Et donc, quel est votre rapport au Madagascar et à son histoire? Et donc, et direz-vous que vous aimez Madagascar et l'amour ou peut-être le patriotisme? Est-il un élément nécessaire du travail sur le patrimoine?
L'amour d'un pays, oui, bien sûr. Mais je pense avant même l'amour d'un pays, c'est l'amour des gens. Comment, quand j'observe une personne, je suis toujours émerveillé en fait par le fait que dans une personne, il y a tout un roman dans une seule personne. Et donc, on a la possibilité, en tant qu'écrivain, d'observer cette personne-là. Et cette personne développe aussi des ramifications avec d'autres. Cette personne n'est pas seule au monde. Et cette personne attire aussi d'autres récits, d'autres histoires. Et est-ce que c'est l'amour de cette personne ou est-ce que c'est l'amour du récit que je développe? Il y a forcément, quand vous racontez l'histoire de quelqu'un, je ne dis pas que vous tombez amoureux de cette personne-là, mais il y a de l'empathie pour cette personne-là. Et je travaille beaucoup à cet endroit-là, de me dire, par exemple, quand je marche dans la rue, il y a beaucoup de gens, et puis je me projette dans 50 ans, 100 ans, et de me dire, mais toutes ces personnes-là, leur histoire va disparaître. Et moi aussi, mon histoire va disparaître. Et qu'est-ce que je fais de ça? Ou alors, maintenant parlons de patrimoine, il y a les patrimoines comme les bâtiments ou autres, et on voit que, ce bâtiment, par exemple, ça fait 100 ans que c'est là, mais les gens qui sont passés là, dans cette maison, il y a 100 ans, c'est quoi leur histoire? Et donc, il y a tout cela qui vient en tête pour moi, et je me dis, moi, je ne fais qu'une traversée, du temps. Je ne fais qu'une traversée de la langue aussi, la langue que je parle actuellement. Peut-être que dans 20 ans, 30 ans, ça va être une autre langue. Bien sûr, ça va être toujours le français, mais c'est pas du tout. On ne vit pas les langues de la même manière. Et donc, l'idée pour moi, ce n'est pas d'écrire pour aujourd'hui. Je n'écris pas pour mes contemporains. J'écris pour un temps où je me dis, il faut que ma langue dépasse l'utilisation immédiate. Il faut que j'entre dans l'esprit humain, et cet esprit humain traverse le temps. Et je ne sais pas si j'ai réussi ou pas, mais la langue contemporaine ne m'intéresse absolument pas. Et c'est pour cela qu'il y a une sorte d'invention de la langue pour moi, de me dire je dois sortir de l'utilisation contemporaine de la langue, je dois me libérer des contraintes de politiques, économiques, culturelles d'aujourd'hui pour durer un peu plus, pour transmettre un peu plus. Le patrimoine que je défends à ce moment-là, c'est la langue. C'est pas forcément un pays, Ce n'est pas forcément parce que quand je voyage à Madagascar et que je pense à mon enfance, en fait, les villes que j'ai traversées, la manière de vivre que j'avais pendant l'enfance, ça n'existe plus. Les guerres, avec les violences économiques, avec la pauvreté, les gens ont changé de mentalité. Avec l'informatique, ce n'est plus du tout la même chose. Et ce qui fait que un livre, par exemple, Lucarne, que j'ai écrit dans les années 80, les paysages qui sont là n'existent plus. Mais est-ce que les rapports entre les humains, ces rapports de domination, est-ce que c'est toujours là? Quand vous dites, par exemple, j'ai été très touché tout à l'heure, quand vous dites que vous avez quitté la guerre au Nigeria et que vous reconnaissez des choses dans mes livres, franchement, je n'ai jamais vécu la guerre comme vous aviez vécu. Et pareil aussi, ma première traduction, les premières traductions de mes livres, c'était des Serbes, Serbo-Croates, pendant la guerre de Yougoslavie, qui ont fait les premières traductions en disant, mais tes livres parlent de chez nous. Et donc je ne comprenais pas en me disant, mais est-ce que je décris la guerre, mais qu'est-ce que c'est qu'une guerre? Et plus que des bombes qui tombent, plus que des fusils qui tonnent, ce sont aussi les guerres entre les émotions, ce sont aussi les guerres entre les sensations des gens, ce sont les séparations des familles, ce sont les ruptures personnelles aussi. Et ce sont tout ça. Et quelque part, ces thèmes-là sont très très présents dans mes livres. Donc voilà. Est-ce que j'aime Madagascar? Évidemment que j'aime Madagascar. Évidemment. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas écrire à la gloire de Madagascar. Ce n'est pas écrire à la gloire d'un continent, mais vraiment de se dire qu'est-ce que nous, êtres humains, nous traversons dans un espace donné et qu'est-ce que nous traversons dans un temps donné et comment nous gardons notre humanité dans tout ça.
I was interested in what you said about liberating yourself from the now, from today, because at the same time, to come back to the question of bearing witness to your experience, I had the feeling that there is, or you, that you are carrying quite a lot of suffering, a lot of death in your work, which I can relate to based on my experience. I think a therapist may refer to this as a kind of trauma, but it seems to be, and I think you're getting into this, more fundamental to who you are. It seems to be a driver to your work. So how do you make sense of how your experience has made and unmade you?
Ce qui m'a vraiment fasciné, c'est ce que vous avez mentionné sur la manière dont vous vous libérez de certaines choses. Par exemple, aussi un thérapeute pourrait parler d'une sorte de traumatisme, mais il semble qu'il s'agisse d'un élément fondamental de votre identité et d'un élément moteur de votre travail. Comment donnez-vous un sens à la façon dont votre expérience vous a fait ou défait?
Oui, ce que je dois souligner d'abord, c'est que j'ai eu une enfance magnifique, mais vraiment, vraiment magnifique. Et l'enfant heureux que j'étais a découvert que son père, pendant la colonisation, était un enfant malheureux. Et donc j'ai voulu réparer ça. Très, très tôt, je me suis dit, je vais raconter l'histoire de mon père. Je vais raconter son enfance, je vais raconter pourquoi il était un enfant malheureux, etc. Parce que moi, je suis heureux. Et lorsque on jouait aussi à l'extérieur, à l'école, j'avais tout, les autres n'avaient rien. Moi, j'avais des chaussures, j'avais des chaussettes, j'avais des mouchoirs. Les autres, ils n'avaient pas des chaussures, ils n'avaient pas de chaussettes, ils n'avaient pas de mouchoirs. Ils avaient le ventre très très gros parce qu'ils ne mangeaient pas le matin. Et moi, je mangeais. Donc, je voyais tout ça en fait. Et je n'ai pas accepté cela. Donc, est-ce que c'est du trauma ou est-ce que c'est de la révolte? Je pense que c'était d'abord de la révolte plus que du trauma. Et puis, au fur et à mesure de la maturité, lorsque l'écrivain il prend de plus en plus d'assurance, je constate aussi que l'histoire du pays, la colonisation est passée par là, c'est une grosse blessure. Et on nous a toujours dit l'indépendance, c'est l'indépendance tcha-tcha-tcha, en danse, etc., etc. Mais on ne parle pas du traumatisme colonial. Et à partir de là, je me dis, mais comment je peux parler de moi-même sans aborder ce traumatisme colonial, puisque mes parents sont marqués par cela, puisque mes grands-parents sont marqués par cela, puisque le pays est marqué par cela. Et donc, est-ce que les pays colonisés ont pris le temps de se dire, mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Et comment résoudre tout ça? Et comment repartir avec... En étant un peu mieux, mais pas simplement d'écouter en fait. J'ai parlé hier avec Jean-Pierre Bécolo, qui est cinéaste camerounais. Il dit, mais la colonisation, c'est comme un accident de voiture. Il y a une voiture qui vous rentre dedans et il y a le chauffeur qui vous dit, c'était pour votre bien. Et donc, on parle du chauffeur, mais on ne parle pas du blessé. Et on parle de l'accident, mais on ne parle pas de la maison qu'on a quittée. Lorsqu'on était dans la maison, on se portait bien. Mais maintenant, est-ce qu'on était toujours accidenté? Est-ce qu'on va toujours tourner autour de cette question de l'accident? Qui est l'accident de l'histoire ou qui est quelque chose qui nous est arrivé il y a quelque temps. Et ce qui fait que il y a une sorte de double personnalité à ce moment-là pour moi. Le malgache que je suis se reconnaît dans les blessures. Mais l'écrivain que je suis, il voit aussi le potentiel d'écriture. Et donc, comment allier toutes ces choses-là? Et à ce moment-là, effectivement, il y a un choix. Parce que un écrivain, il peut être très cynique, il peut tout écrire. Il peut utiliser sa puissance d'écriture pour en faire juste une matière littéraire, juste quelque chose qui va percuter, qui va amener à loin, mais qui peut faire vendre aussi les livres. Hein, parce que pourquoi il y a eu ce choix qui est arrivé à un moment, c'est que j'ai été incité par des éditeurs à dire, raconter la violence, que la violence, que la violence, que la violence. Et parce que ça passionne les gens, parce que c'est vendeur, parce que, etc., etc. Et donc le choix, c'était se poser à ce moment-là, vis-à-vis de moi-même, qu'est-ce que je fais de cette matière-là? Éthiquement, comment je vais me regarder en face si j'ai cette matière et que je l'exploite, entre guillemets. Et à ce moment-là, je me suis toujours rappelé de l'enfant que j'étais, de me dire, cet enfant qui n'a pas trouvé les mots, qui a vu les blessures, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait voulu consoler les personnes qui étaient blessées. Et à ce moment-là, j'ai fait effectivement ce choix de me dire, mon écriture doit comporter beaucoup de lumière. Et c'est à ce moment-là que je n'ai pas du tout abandonné la poésie. Et que dans tous mes romans, il y a toujours de la poésie. Il y a toujours des belles choses. Il y a toujours, à côté de toutes ces blessures, à côté de toutes ces violences-là, l'être humain aime la vie. Et je veux montrer cela, en fait, qu'on veut tous vivre, on veut tous le bonheur. C'est effectivement, il y a un moment donné, c'est difficile pour certains, plus facile pour d'autres. Et l'écriture va dans ce sens-là pour moi. Voilà, c'est à peu près cela le genre de travail que je veux mener, avec une conscience aiguë en fait de la technique d'écriture, parce que c'est aussi une technique d'écriture, et dans quelle voie j'engage ma propre technique d'écriture. Quelle est entre l'éthique et l'esthétique, qu'est-ce que je fais? Et là, je reviens finalement dans la langue malgache. Le mot soi signifie à la fois esthétique et éthique. Donc, dans un seul mot, il a ces deux choses-là. Et j'essaie de faire une sorte de fusion comme cela, de la beauté et de l'éthique.
Thank you very much. It's really inspiring, not just reading your work, but hearing about the motivations behind it, the thought pattern, the feelings, the obligations as well. Thank you for your time, for being here, of course, and we look forward to learning more about you in the future.
Merci beaucoup et merci à l'université de m'inviter ici. Et je suis très content d'être là. Merci.
And thank you very much for listening. Until next time.